Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ici dans notre assemblée pour les visiteurs. Merci aux conducteurs de la louange qui nous ont conduits dans cette louange que nous apportons au Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer notre étude du second livre des rois. Et nous allons voir tout particulièrement l'histoire du roi Jéhu au chapitre 9 et 10. Je vais tout d'abord donner un peu de contexte et ensuite nous lirons ces chapitres 9 et 10 en partie et nous verrons ce que ce texte nous apprend sur Dieu, ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes à travers la personne de Jéhu et enfin comment cette histoire, qui comme vous allez pouvoir le constater, n'est pas une histoire pour enfants, nous parle, nous montre et glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout d'abord un peu de contexte. Dans le premier livre des rois, au chapitre 19, l'Éternel avait commandé son serviteur Élie, alors que ce dernier devenait vieux et qu'il était découragé, d'aller oindre trois personnes. Son successeur, Élisée, Hazaël comme roi de Syrie et Jéhu comme roi d'Israël. On se souvient que Élie, à ce moment-là, avait seulement oint son successeur Élisée, et que c'était Élisée qui, au chapitre 8 du second livre des rois, oint Hazaël comme roi de Syrie, c'est-à-dire le chapitre 8, le chapitre qui vient juste avant notre chapitre 9, où, comme nous allons le lire dans quelques instants, le roi Jéhu va être oint comme roi d'Israël pour une mission bien précise, faire justice. On se souvient également de la raison pour laquelle Élie était découragé. Achab et Jézabel, le roi et la reine d'Israël, s'étaient détournés de l'Éternel et avaient fait exécuter tous les prophètes de l'Éternel en Israël. Et l'Éternel avait annoncé dans sa souveraineté, lorsqu'il avait demandé à Élie d'oindre ces trois personnes, au chapitre 19, il dit au verset 17, « Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. » Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. On se souvient également de l'histoire de la vigne de Naboth, où Achab, avec tout l'appui et l'aide de sa femme Jézabel, avait fait mourir Naboth afin de lui prendre son héritage. Et on se souvient des chiens qui léchaient le sang de Naboth. Et à la suite de cet épisode, l'Éternel dit à Achab et à Jézabel, par l'intermédiaire d'Élie, en 1 Roi, chapitre 21, versets 21 à 24, je vous le lis. « Je vais faire venir le malheur sur toi, il dit cela à Achab. Je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Achab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baïcha, fils d'Akija. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. » Et lorsque Élie avait annoncé cela, on se souvient également que Akab s'était repenti, qu'il s'était humilié, et que l'Éternel avait déclaré en parlant à son prophète Élie dans le dernier verset de ce chapitre 21, « As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. » Voici donc notre contexte pour ce matin, les chapitres 9 et 10 de ce second livre des rois. C'est maintenant, effectivement, le moment où, par l'intermédiaire de Jéhu, l'Éternel fait justice et va faire venir le malheur sur la famille de Jéhu. Alors, lisons notre texte. Je vais commencer la lecture au chapitre 9, verset 1, et je vous dirai au fur et à mesure là où j'en suis. Deuxième livre des rois, chapitre 9, verset 1. Le prophète Élisée appela l'un des membres de la communauté de prophètes et lui dit « Noue ta ceinture, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Une fois arrivé là-bas, va voir Jéhu, le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi. Tu le feras se lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu la verseras sur sa tête et tu affirmeras « Voici ce que dit l'Éternel, je te consacre par onction comme roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans attendre. Le jeune prophète partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva là-bas, il trouva les chefs de l'armée en train de siéger. Il dit « Chef, j'ai un mot à te dire. » Jéhu demanda « Auquel de nous tous ?» Il répondit « À toi, chef. » Jéhu se leva et alla à l'intérieur de la maison. Le jeune homme versa alors l'huile sur sa tête en lui affirmant « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te consacre par onction comme roi d'Israël du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la famille de ton seigneur Akab et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs les prophètes et celui de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la famille d'Akab va disparaître. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre, en Israël. Je vais rendre la famille d'Akab pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisréel. Il n'y aura personne pour l'enterrer. » Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Je continue au verset 30. Jéhu entra dans Jisréel. Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. Alors que Jéhu franchissait la porte, elle dit « Tout va bien, espèce de Zimri, assassin de son seigneur ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est avec moi ? Qui ?» Deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et son sang éclaboussa la muraille et les chevaux. Jéhu la piétina. Puis il entra dans le palais, mangea et but avant de dire « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car c'est la fille d'un roi. » On partit pour l'enterrer, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. On retourna l'annoncer à Jéhu qui dit « C'est ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie le Tishbite, quand il a dit « Les chiens mangeront la chair de Jézabel ». Dans le champ de Jisréel, et le cadavre de Jézabel sera pareil à du fumier qu'on étale sur les champs dans le champ de Jisréel, de sorte qu'on sera incapable de dire « C'est Jézabel ». Je continue, chapitre 10, verset 1. « Il y avait à Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jisréel, aux anciens et aux responsables des enfants d'Akab. Il leur disait « Maintenant que cette lettre vous est parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre Seigneur, ainsi que des chars et des chevaux, une ville fortifiée et des armes, voyez lequel des fils de votre Seigneur est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la famille de votre Seigneur. » Ils eurent très peur et dirent « Deux rois ont été incapables de lui résister. Comment pourrions-nous résister, nous ?» Le chef du palais, le chef de la ville, les anciens et les responsables des enfants d'Akab envoyèrent dire à Jéhu « Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ne proclamerons personne roi, fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il disait « Si vous êtes avec moi et si vous êtes prêts à m'obéir, prenez les têtes des fils de votre Seigneur et venez me retrouver demain à la même heure à Jisréel. » Or, les 70 fils du roi se trouvaient avec les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils les égorgèrent, ces 70 hommes. Puis, ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jisréel. Le messager vint lui annoncer « On a apporté les têtes des fils du roi. » Jéhu dit « Répartissez-les en deux tas à l'entrée de la ville et qu'ils y restent jusqu'au matin. » Je finis la lecture au verset chapitre 10, verset 28 jusqu'au verset 31. Jéhu fit disparaître Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna pas les veaux d'or qui se trouvaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux, et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes descendants jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Ce matin, nous allons voir trois points. Nous verrons dans un premier point la justice de Dieu et le bien du peuple. Nous verrons dans un second point que Jéhu, c'est le justicier qui est la famille d'Akab et de Jézabel. Et enfin, nous verrons dans un troisième point que Jésus est le justicier qui aime son peuple. La justice de Dieu, à travers l'Ancien Testament, peut parfois nous sembler sans cœur. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. Et c'est vrai, la justice en elle-même est sans cœur. Et dans un tribunal, lorsque le verdict tombe, en général, personne ne rigole. La semaine dernière, je regardais la réaction d'un tribunal dans l'État de Floride, lorsque le verdict tombait sur un condamné à mort. Et on sentait qu'il y avait dans le tribunal une atmosphère tout à fait particulière. On voyait et on sentait que c'était dur même pour le juge de faire son travail et de, lorsqu'il lisait le verdict, de ne pas avoir un rythme de voix ou une voix tremblante qui changeait. Lorsqu'il prononçait ces mots, « Ce tribunal vous a trouvé coupable et vous condamne à la peine capitale. » Et lorsque Dieu rend justice, il ne le fait pas parce qu'il prend plaisir à tuer la famille d'Akab. Un peu comme un homme qui, lui, il pourrait prendre plaisir et avoir hâte de rendre justice et de se venger. Une expression commune, après tout, dans notre langue et dans d'autres langues, disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui se mange froid, c'est-à-dire que bien souvent pour l'homme, c'est un plat qu'il va savourer, qu'il va apprécier. Et l'expression nous dit que l'homme appréciera la vengeance, ce plat d'autant plus s'il le mange froid, c'est-à-dire s'il laisse passer un peu de temps. Pour l'homme à qui on a fait un tort, la vengeance et la justice sont parfois si alléchantes qu'elles en deviendraient presque de la gastronomie. Mais lorsque Dieu venge sur Jézabel l'assassinat de ses serviteurs, les prophètes, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel, selon le verset 7 du chapitre 9, ce n'est aucunement pour lui un plat qu'il savoure. Mais l'Éternel fait justice. Il rend justice, et cela pour principalement deux raisons. La première, c'est pour le bien du peuple. Au verset 22 du chapitre 9, verset que nous n'avons pas lu, lorsque Joram vient à la rencontre de Jéhu et lui demande si tout va bien, Jéhu lui répond « Comment ? Tout irait bien alors que l'on assiste aux prostitutions de ta mère Jézabel et à ses nombreux sortilèges ?» Ces prostitutions desquelles parle Jéhu ici, c'est le fait que Jézabel s'est détournée de l'Éternel pour adorer Baal et a entraîné avec elle tout le peuple à faire la même chose. C'est une sorte de prostitution spirituelle. L'Éternel fait justice afin que le peuple soit libéré de l'influence de la famille d'Akab qui encourage à louer les idoles des pays environnants. Lorsqu'un homme est atteint d'un cancer, la seule chance pour lui, le seul moyen, la seule solution pour le sauver, c'est d'enlever la tumeur qui est faite de cellules corrompues afin d'éviter que cette corruption se répande à tout le corps. Ici, l'homme atteint d'une maladie, c'est le peuple d'Israël. Le mal qui se répand comme un cancer, c'est le culte de Baal et des idoles. qui font que le peuple abandonne l'Éternel, la source même de leur vie. Et la tumeur qui doit être enlevée dans son entièreté, c'est la famille d'Akab, sa veuve Jézabel, son fils Joram, ainsi que toute sa maison. Le verset 8 du chapitre 9 dit « Toute la famille d'Akab va disparaître. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. » Voilà une première raison pour laquelle l'Éternel extermine toute la famille d'Akab, afin de retirer cette tumeur pour le bien du peuple. La deuxième raison, c'est parce que le mal ne peut pas rester impayé. Et que si le coupable a arraché un œil, alors son œil aussi à lui doit être arraché. Le coupable doit payer un prix équivalent au mal qu'il a fait. Indépendamment du fait de sauver le peuple en enlevant la tumeur, Dieu doit faire justice car il est un Dieu juste et il ne peut pas être injuste. Tout le monde sait que le symbole de la justice, c'est une balance. Mais j'ai parfois été très étonné lorsque je parlais avec des étudiants non chrétiens dans le cadre de mon ministère avec Agapé Campus, du fait qu'ils ne comprenaient pas la signification de cette balance. Et tout particulièrement lorsque je parle avec des étudiants musulmans et que je leur demande si Dieu est un juste juge, ils me répondent « Oui, bien sûr ». Et invariablement, tous, ils me disent que Dieu va juger selon la balance. Ils disent, il mettra d'un côté, sur un plateau de la balance, nos mauvaises actions, les choses que l'on a fait de mal, nos mauvaises pensées, les choses que nous n'avons vraiment pas bien faites. Et il continue en disant qu'il mettra sur l'autre côté de la balance nos bonnes actions, les choses que nous avons bien faites, c'est-à-dire les rites religieux que nous avons observés, nos prières, nos récitations de versets, ainsi que toutes les bonnes actions que nous avons pu faire envers ceux qui étaient dans la détresse. D'un côté, le mal que nous avons fait, de l'autre côté, nos bonnes actions. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça que marche la justice. Si vous avez volé une pomme et que vous vous retrouvez devant un tribunal et que vous disiez au juge « Oui, c'est vrai, j'ai volé une pomme, mais l'autre matin, j'ai aidé une petite dame à traverser la route. » Ça devrait compenser, non ? Le juge vous dira probablement que c'est une très bonne chose d'aider les gens à traverser la rue et que ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir volé une pomme. Ce que va faire le tribunal, c'est qu'il va prendre la balance de la justice et essayer de déterminer au mieux, déjà si vous êtes coupable, et de quoi vous êtes coupable exactement, c'est-à-dire de bien distinguer ce qu'il y a sur le premier plateau de la balance, le mal que vous avez fait, la pomme que vous avez volée, ou dans le cas de ce texte, ici, Akab et Jézabel sont coupables d'avoir tué les prophètes de l'Éternel. Ils sont coupables d'avoir tué Naboth et de lui avoir volé sa vigne. Ils sont coupables d'avoir détourné le peuple de Dieu vers les Baals et les idoles de Canaan. Puis le tribunal va déterminer ce qu'il y a de l'autre côté de la balance, c'est-à-dire le juste prix à payer pour avoir volé la pomme. Et le juge va dire, par exemple, la juste rétribution pour avoir volé la pomme, c'est une amende de 50 euros. 50 euros n'étant pas le prix de la pomme, mais étant le prix de la punition pour avoir volé la pomme. Et cette balance de la justice, elle est très fine. Et ce n'est jamais facile pour l'homme de déterminer avec justesse et avec véritable justice ce que devrait être la peine d'un homme pour avoir commis un mal. C'est pour cela que les juges font de longues études. Et c'est pour cela que les tribunaux ne sont jamais constitués d'une seule personne. Est-ce que cette personne dont je vous ai parlé plus tôt en Floride, qui avait séquestré, violé et tué plusieurs jeunes filles, mérite la peine capitale ? Difficile à déterminer pour nous autres humains qui sommes imparfaits. Ici, dans notre texte, celui qui juge, c'est Dieu. Et il est parfait. Et nous pouvons lui faire confiance que sa balance à lui est parfaitement équilibrée. Et ici, son verdict tombe. Au chapitre 9, verset 8, « Toute la famille d'Akab va disparaître. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. » Et au verset 10, « Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Dieu juge donc la famille d'Akab à la fois pour le bien d'Israël, pour enlever la tumeur du peuple, mais aussi parce qu'il est juste et qu'il ne peut pas laisser le péché impuni. Toute offense a pour prix une juste rétribution. Souvent, lorsque nous entendons « œil pour œil, dent pour dent », notre premier réflexe est de nous dire que c'est quand même un peu archaïque comme règle. Mais en fait, c'était une grande amélioration par rapport à ce que les gens pratiquaient avant que Moïse donne la loi au peuple dans le désert. Souvent, lorsque les gens se faisaient justice eux-mêmes, le côté punition de la balance avait tendance à être beaucoup plus chargé que le côté offense. C'était plutôt « je vais arracher à mon ennemi ses deux yeux parce qu'il m'en a arraché un seul ». Jéhu va être un instrument puissant pour la justice entre les mains de l'Éternel. Il va complètement décimer la famille d'Akab. Il va tellement bien enlever cette tumeur du peuple qu'à la fin de notre texte, au verset 30 du chapitre 10, l'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes descendants seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la quatrième génération. » Jéhu a été efficace pour enlever le mal du peuple, mais il n'a pas été le roi parfait non plus. Et au verset 31, nous pouvons lire « Toutefois, Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Et une des façons, dans ces chapitres 9 et 10, que nous pouvons voir qu'effectivement, Jéhu ne marchait pas de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, c'est dans sa façon de rendre la justice. Souvenons-nous qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles l'Éternel fait justice. La première, c'est d'enlever le mal, ce que Jéhu fait à merveille. Il va enlever même un petit peu plus que la tumeur. Mais la deuxième, c'est que Dieu est juste. Et ici, Jéhu va trop loin. Sa haine pour la famille d'Akab va l'amener à aller plus loin que œil pour œil, dent pour dent. Il va être trop zélé et peut-être prendre un peu trop de plaisir dans sa façon de rendre la justice. Une sœur me faisait remarquer cette semaine qu'au début de la royauté, dans le second livre de Samuel, le roi David était toujours très magnanime, était toujours très respectueux envers la famille de Saül. Et nous voyons ici que, alors que les choses se sont beaucoup empirées et que nous approchons de la fin de la royauté et de la déportation en Assyrie et à Babylone, le roi Jéhu, lui, n'a plus aucun respect pour la famille d'Akab. Si bien qu'après avoir tué Jézabel, Jéhu dit au chapitre 9, verset 34, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car c'est la fille d'un roi. » La raison pour laquelle Akab voulait enterrer Jézabel, ce n'est pas parce que c'est la reine, la veuve du roi d'Israël, mais parce que c'était la fille de Ben-Hadad, le roi de Syrie, le roi ennemi. Jéhu a plus de respect pour son ennemi juré qui essaie de le tuer que pour la famille d'Akab, l'ancien roi d'Israël. Peut-être que l'auteur, à travers ce déferlement de violence de la part de Jéhu, veut nous montrer que la situation était devenue telle en Israël avec le culte des idoles que le véritable ennemi, c'était ce cancer qui gangrénait au sein du peuple et que cet ennemi était devenu plus dangereux que n'importe quel ennemi venant de l'extérieur. Peut-être qu'à travers cela, nous pouvons, nous aussi, aujourd'hui, voir que le véritable ennemi, ce ne sont pas les circonstances de la vie. Le manque de travail, le manque d'amis, le manque d'argent. Mais que c'est bel et bien le péché qui va sortir de notre cœur et provoquer la colère, le manque de pardon, les querelles, qui vont au final être une expression des choses que l'on adore réellement. J'ai relevé dans ce texte plusieurs indices qui montrent que Jéhu va trop loin et qu'il va rendre justice comme une sorte de fou, ce qui va amener le prophète Osée à prophétiser dans Osée chapitre 1, versets 3 à 5, où il est écrit « Osée alla prendre Gomère, fille de Diblaïm, selon ce que l'Éternel lui avait commandé. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit « Appelle-le Jisréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. » Et dans ce chapitre 9 et 10, nous avons un premier indice du caractère zélé pour le sang de Jéhu lorsque la sentinelle le voit arriver de loin vers Jisréel. La sentinelle, alors que Jéhu est encore loin, dit au verset 20, le messager, donc ils avaient envoyé un messager vers Jéhu pour voir qui c'était qui venait, et la sentinelle dit, le messager ne revient pas, et la manière de conduire est comme celle de Jéhu, le petit-fils de Nimshi, c'est celle d'un fou. Jéhu conduit comme un fou, et il est en grande hâte d'arriver à Jisréel pour y faire couler le sang. Jéhu ne va pas se contenter de tuer la famille d'Akab, mais il va aussi tuer Akazia, le roi de Juda, ainsi que ses 42 frères. On voit ça au chapitre 10, verset 12. Lorsque Jézabel tombe du rempart de Jisréel et que son sang éclabousse la muraille et les chevaux, Jéhu la piétine avec son cheval. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire ça? Et après avoir fait cela, il rentre dans le palais, mange et boit. En parallèle de cela, les chiens aussi mangent leur repas, c'est-à-dire Jézabel. Et lorsqu'on vient rapporter cela à Jéhu, il dit « C'est ce que l'Éternel avait déclaré. Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jisréel. » Et puis, il ajoute au verset 37 « Et le cadavre de Jézabel sera pareil à du fumier qu'on étale sur les champs. » En gros, il est en train de dire que les chiens vont digérer Jézabel et puis ensuite ils vont la répandre dans les champs. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de donner cette précision? Il y a une différence entre le piège à souris qui va tuer la souris d'un coup net, et le chat qui va jouer avec sa proie. Et ici, Jéhu semble plutôt être comme ce chat. Et enfin, dans la première partie du chapitre 10, Jéhu va tuer les 70 fils d'Akab, ce qui est une bonne chose, ce que l'Éternel avait commandé. Mais il va prendre leur tête et il va en faire deux tas à l'entrée de la ville, chose qu'il n'aurait pas dû faire. Chose que faisaient les autres peuples, et particulièrement les Syriens, qui vouaient un culte aux idoles. Dans sa soif de sang et dans ses pratiques, Jéhu, le roi d'Israël, ressemble plus à un Syrien qu'à un roi d'Israël. Alors, comment est-ce que ces défauts de Jéhu peuvent nous parler à nous aussi aujourd'hui? Et je pense que nous pouvons en tirer deux leçons. Premièrement, nous aussi, nous pouvons être comme Jéhu. Alors, nous n'allons tuer personne. Mais lorsque quelqu'un va nous offenser, lorsque quelqu'un va nous faire un tort, nous serons très rapides à aller plus loin que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Bien souvent, lorsque quelqu'un nous insulte, oh, combien est-ce qu'on aimerait avoir une insulte plus grande à lui répondre ? Lorsque quelqu'un me passe un peu trop près, lorsque je suis à vélo avec sa voiture, oh, combien je suis très prompte à lui souhaiter quelques années de prison. Ou peut-être pire encore. Et dans ces moments-là, je pense que nous pouvons légitimement nous poser la question, est-ce qu'au fond de mon cœur, je suis réellement meilleur que j'ai eu? La deuxième chose que l'on peut apprendre, c'est que la justice humaine, à cause de notre cœur imparfait et enclin au péché, ne sera jamais parfaite. Aucun homme, aucun système politique ne pourra parfaitement assouvir notre besoin de justice. Et nous pouvons avoir confiance dans le fait que Dieu est juste, que sa justice est parfaite et que sa justice va venir. Dans ce texte de ce matin, les événements se passent quelques 40 années après la mort des prophètes et la mort de Naboth. Mais l'Éternel n'avait pas oublié de faire justice. Et il n'oubliera pas non plus de faire justice pour vous, sans parti pris. Parce que nous ne savons pas comment juger parfaitement, notre rôle à nous, c'est de pardonner, d'aimer l'autre et de s'attendre à la justice de Dieu que nous ignorons. L'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 19, dit « Ne vous vengez pas à vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Prenons également garde à ne pas prendre le nom du Seigneur en vain et d'aller voir quelqu'un qui nous a offensés, le cœur plein de haine, et de lui dire « Dieu va faire justice », ce qui serait une manière, en quelque sorte, de répandre le sang. Ce qui serait une manière de lui dire « Moi, je n'ai pas la capacité de t'arracher les yeux et de te casser toutes les dents, mais tu vas voir que Dieu va te faire bien pire. » Mais même si nous pouvons apprendre des leçons de vie à travers ces histoires des rois, ces histoires restent là principalement et premièrement pour nous montrer le vrai roi qui un jour devait venir pour rendre justice à son peuple. Jéhu est allé trop loin. Il est allé plus loin que la justice de Dieu, œil pour œil, dent pour dent. Mais environ 800 ans après cette histoire, Jésus, le vrai roi des rois, va venir dans le monde. Il va enseigner la foule et dans son sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, verset 38, il va dire « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. » Est-ce que Jésus est en train de modifier la loi de Dieu? Est-ce que Jésus est en train de dire que la balance de la justice n'a plus lieu d'être et que le mal qui est sur un plateau de la justice, eh bien, il n'a pas besoin d'être compensé par une juste rétribution? Jéhu, qui est le coupable Achab, va faire justice en faisant retomber sur sa descendance plus que la foi, plus que le poids de son péché, mais sur une sorte de plan bien plus global. Jésus, qui aime le coupable Adam, va faire retomber, non pas sur sa descendance, nous, mais sur lui-même, le poids de son péché, le poids de notre péché. À la croix, et par amour pour nous, Jésus va prendre sur lui la justice de Dieu, afin que son peuple, qui est coupable, ne meure pas. Jésus-Christ n'abolit pas la justice de Dieu, mais il l'accomplit lui-même, sur lui-même. À la croix, Jésus pardonne l'homme qui lui a frappé la joue droite, en tendant l'autre joue afin que son père puisse la frapper et que sa justice retombe sur lui. À la croix, et par amour pour moi, celui à qui j'ai arraché l'œil droit se fait également arracher l'œil gauche par son Père, afin que je puisse garder mes deux yeux et voir son amour pour moi. Et c'est ce même Dieu qui, par amour pour moi, a accompli sa justice sur lui-même, qui me demande de ne pas me venger, qui me demande de pardonner et d'aider et d'aimer mon prochain. Il y a une dizaine d'années, je regardais un autre procès dans ce même état de Floride. Et si ma mémoire est bonne, c'était également un homme qui avait séquestré, violé et assassiné une jeune fille. Et le tribunal était partagé quant à la peine à administrer. Certains voulaient la peine capitale et d'autres l'emprisonnement à vie. Alors, ce qu'a fait le juge, c'est qu'il a demandé son avis à la mère de la fille. Elle a dit qu'elle était chrétienne, qu'elle avait beaucoup réfléchi à tout cela et qu'elle comprenait qu'elle-même était coupable envers Dieu d'une offense encore plus grande que ce que cet homme avait fait envers sa fille. Que Jésus l'avait pardonnée et avait choisi de payer sa dette en mourant à la croix. Et qu'elle aussi, même si c'était extrêmement dur étant donné les circonstances, elle choisissait de pardonner et avait demandé au tribunal d'appliquer la peine la moins lourde. Je pense que je me rappellerai toujours de ce procès, pas pour les circonstances exactes, mais pour le pardon de cette mère. Et à chaque fois que quelqu'un va nous offenser, va nous faire un tort, nous serons, nous aussi, un peu comme cette mère devant un choix. Soit marcher dans les traces de Jéhu et nous déchaîner sur le coupable, soit marcher dans les traces de Jésus et pardonner. Alors je prie que lorsque le moment viendra, nous ferons le bon choix. Prions. Notre Père, notre Dieu, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour ta justice, on te remercie parce que tu nous dis les choses sans filtre. Seigneur, on veut te faire confiance parce que tu es juste et que la balance de ta justice est parfaitement équilibrée. Seigneur, à travers ces textes de l'Ancien Testament, tu nous montres le prix du péché. Tu nous montres que le prix du péché, c'est la mort. Et Seigneur, ô combien on est reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, tu as choisi de faire retomber ta colère sur toi-même, sur ton propre Fils, afin que nous puissions avoir la vie. Seigneur, aide-nous dans les moments de difficulté où nous aurons à pardonner nous aussi, à voir ton pardon pour nous, afin que nous puissions, quoi qu'il arrive, toujours aimer notre ennemi, toujours lui pardonner et l'accueillir. Seigneur, je te prie que tu puisses toujours nous donner la force de regarder à toi dans ces moments difficiles. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.